Extrait de l'œuvre de François-René de Chateaubriand, Les Martyrs, intitulé « Préparatifs d'une bataille des Francs et des Romains ». C'est un jeune guerrier de l'armée de Constance Chlore qui raconte. Les Francs avaient été surpris par Constance. Ils évitèrent d'abord le combat, mais aussitôt qu'ils eurent rassemblé leurs guerriers, ils vinrent audacieusement au-devant de nous et nous offrirent la bataille sur le rivage de la mer. On passa la nuit à se préparer de part et d'autre, et le lendemain, au lever du jour, les armées se trouvèrent en présence. La Légion de fer et la Foudroyante occupaient le centre de l'armée de Constance. En avant de la première ligne, paraissaient les vexillaires, distingués par une peau de lion qui leur couvrait la tête et les épaules. Ils tenaient levés les signes militaires des cohortes, l'aigle, le dragon, le loup, le minotaure. Ces signes étaient parfumés et ornés de branches de pin au défaut de fleurs. Les astalis, chargés de lances et de boucliers, formaient la première ligne après les vexillaires. Les princes, armés de l'épée, occupaient le second rang, et les triari venaient au troisième. Ceux-ci balançaient le pilum de la main gauche. Leurs boucliers étaient suspendus à leur pic planté devant eux, et ils tenaient le genou droit en terre en attendant le signal du combat. Des intervalles ménagés dans la ligne des légions étaient remplis par les machines de guerre. À l'aile gauche de ces légions, la cavalerie des alliés déployait son rideau immobile. Sur des coursiers tachetés comme des tigres et prompts comme des aigles, se balançaient avec grâce les cavaliers de Numance, de Sagonte et des bourses enchantées du Bétis. Un léger chapeau de plume ombrageait leur front, un petit manteau flottait à leurs épaules, une épée recourbée retentissait à leur côté. La tête penchée sur le cou de leurs chevaux, les rênes entre les dents, deux courts javelots à la main, ils volaient à l'ennemi. Le jeune Viriat entraînait après lui la fureur de ses cavaliers rapides. Des germains d'une taille gigantesque étaient entremêlés çà et là comme des tours dans le brillant escadron. Ces barbares avaient la tête enveloppée d'un bonnet. Ils maniaient d'une main une massue de chêne et montaient à cru des étalons sauvages. Auprès d'eux, quelques cavaliers numides, n'ayant pour toute arme qu'un arc, pour tout vêtement qu'une chlamyde, frissonnaient sous un ciel rigoureux. À l'aile opposée de l'armée se tenait immobile la troupe superbe des chevaliers romains. Leurs casques étaient d'argent, surmontés d'une louve de vermeil. Leurs cuirasses étincelaient d'or et un large baudrier d'azur suspendait à leur flanc une lourde épée ibérienne. Sous leur selle ornée d'ivoire s'étendait une housse de pourpre et leurs mains couvertes de gantelets tenaient les rênes de soie qui leur servaient à guider de hautes cavales plus noires que la nuit. Les archers crétois, les vélites romains et les différents corps des Gaulois étaient répandus sur le front de l'armée. L'instinct de la guerre est si naturel chez ces derniers que souvent, dans la mêlée, les soldats deviennent des généraux, rallient leurs compagnons dispersés, ouvrent un avis salutaire, indiquent le poste qu'il faut prendre. Rien n'égale l'impétuosité de leurs attaques. Tandis que le germain délibère, ils ont franchi les torrents et les monts. Vous les croyez au pied de la citadelle, et ils sont au haut du retranchement emportés. En vain, les cavaliers les plus légers voudraient les devancer à la charge. Les Gaulois rient de leurs efforts, voltigent à la tête des chevaux et semblent leur dire « Vous saisiriez plutôt les vents sur la plaine ou les oiseaux dans les airs. » Tous ces barbares avaient la tête élevée, les couleurs vives, les yeux bleus, le regard farouche et menaçant. Ils portaient de larges braies et leurs tuniques étaient chamarrées de morceaux de pourpre. Un ceinturon de cuir pressait à leur côté leur fidèle épée. L'épée du Gaulois ne le quitte jamais. Mariée, pour ainsi dire, à son maître, elle l'accompagne pendant la vie, elle le suit sur le bûcher funèbre et descend avec lui au tombeau. Tel était le sort qu'avaient jadis les épouses dans les Gaules, tel est celui qu'elles ont encore au rivage de l'Indus. Enfin, arrêtée comme un nuage menaçant sur le penchant d'une colline, une légion chrétienne, surnommée la Pudique, formait derrière l'armée le corps de réserve à la garde de César. Elle remplaçait auprès de Constance la légion thébaine, égorgée par Maximien Victor, illustre guerrier de Marseille, conduisait au combat les milices de cette religion qui porte aussi noblement le casque du vétéran que le cilice de l'anachorète. Cependant, l'œil était frappé d'un mouvement universel. On voyait les signaux du porte-étendard qui plantait le jalon des lignes, la course impétueuse du cavalier, les ondulations des soldats qui se nivelaient sous le cep du centurion. on entendait de toutes parts les grêles hennissements des coursiers, le cliquetis des chaînes, les sourds roulements des balistes et des catapultes, les pas réguliers de l'infanterie, la voix des chefs qui répétaient l'ordre, le bruit des piques qui se relevaient et s'abaissaient au commandement des tribuns. Les Romains se formaient en bataille aux éclats de la trompette, de la corne et du litnus. Et nous, Crétois, fidèles à la Grèce au milieu de ces peuples barbares, nous prenons nos rangs au son de la lyre. Mais tout l'appareil de l'armée romaine ne servait qu'à rendre l'armée des ennemis plus formidable, par le contraste d'une sauvage simplicité. Parée de la dépouille des ours, des veaux marins, des urocs et des sangliers, les Francs se montraient de loin comme un troupeau de bêtes féroces. Une tunique courte et serrée laissait voir toute la hauteur de leur taille et ne leur cachait pas les genoux. Les yeux de ces barbares ont la couleur d'une mer orageuse. La chevelure blonde, ramenée en avant sur leur poitrine, éteinte d'une liqueur rouge, est semblable à du sang ou à du feu. La plupart ne laissent croître leur barbe qu'au-dessus de la bouche, afin de donner à leurs lèvres plus de ressemblance avec le mufle des dogues et des loups. Les uns chargent leur main droite d'une longue framée, et leur main gauche d'un bouclier qu'ils tournent comme une roue rapide. D'autres, au lieu de ce bouclier, tiennent une espèce de javelot, nommé angon, où s'enfoncent de fer recourbé. Mais tous ont à la ceinture la redoutable francisque, espèce de hache à deux tranchants, dont le manche est recouvert d'un dur acier. Arme funeste que le Franc jette en poussant un cri de mort, et qui manque rarement de frapper le but qu'un œil intrépide a marqué. Ces barbares, fidèles aux usages des anciens germains, s'étaient formés en coin, leur ordre accoutumé de bataille. Le formidable triangle, où l'on ne distinguait qu'une forêt de framés, des peaux de bêtes et des corps demi-nus, s'avançait avec impétuosité, mais d'un mouvement égal, pour percer la ligne romaine. À la pointe de ce triangle étaient placés des braves, qui conservaient une barbe longue et hérissée, et qui portaient au bras un anneau de fer. Ils avaient juré de ne quitter ces marques de servitude qu'après avoir sacrifié un Romain. Chaque chef dans ce vaste corps était environné des guerriers de sa famille, afin que, plus ferme dans le choc, il remportât la victoire ou mourût avec ses amis. Chaque tribu se ralliait sous un symbole. La plus noble d'entre elles se distinguait par des abeilles ou trois fers de lance. Le vieux roi des Sicambres, Pharamond, conduisait l'armée entière et laissait une partie du commandement à son petit-fils Mérové. Les cavaliers francs, en face de la cavalerie romaine, couvraient les deux côtés de leur infanterie. À leurs casques, en forme de gueules ouvertes ombragées de deux ailes de vautour, à leurs corselets de fer, à leurs boucliers blancs, on les eut pris pour des fantômes ou pour ces figures bizarres que l'on aperçoit au milieu des nuages pendant une tempête. Clodion, fils de Pharamond et père de Mérové, brillait à la tête de ses cavaliers menaçants. Sur une grève, derrière cet essaim d'ennemis, on apercevait leur camp semblable à un marché de laboureurs et de pêcheurs. Il était rempli de femmes et d'enfants, et retranché avec des bateaux de cuir et des chariots attelés de grands bœufs. Non loin de ce camp champêtre, trois sorcières en lambeaux faisaient sortir de jeunes poulains d'un bois sacré, afin de découvrir par leur course à quelle partie Tuiston promettait la victoire. La mer d'un côté, les forêts de l'autre, formaient le cadre de ce grand tableau. Le soleil du matin, s'échappant des replis d'un nuage d'or, verse tout à coup sa lumière sur les bois, l'océan et les deux armées. La terre paraît embrasée du feu des casques et des lances. Les instruments guerriers sonnent l'air antique de Jules César partant pour les Gaules. La rage s'empare de tous les cœurs. Les yeux roulent du sang, la main frémit sur l'épée. Les chevaux se cabrent, creusent l'arène, secouent leur crinière, frappent de leur bouche écumante, leur poitrine enflammée, ou lèvent vers le ciel leurs naseaux brûlants pour respirer les sons belliqueux.